Les animaux les plus difficiles que j'ai eu à faire là, dernièrement, c'est des animaux dont on ne voit pas les membres, ou très peu. J'ai fait un morse, et le morse, c'est une espèce de grosse limace, une espèce de trou mou. Et en réalité, quand on regarde bien le squelette, ben non, il y a un squelette, c'était très précis le squelette. Donc il a fallu que j'étudie le squelette pour comprendre comment c'était fabriqué. Je voulais faire un morse pour le Muséum scénographique de Monaco, j'avais une expo sur les pôles Nord, pôle Sud. Donc un animal du pôle Sud, le morse des pôles Nord et l'ours blanc, et puis pôle Sud, ben, le manchot empereur. C'est pareil, le manchot empereur, quand il rentre sa tête dans son corps, ben, on ne voit plus rien à part ses petites ailes atrophiées. Et donc, pareil, comprendre le squelette pour que la forme générale ne ressemble pas à un sac à patates, mais que ce soit quelque chose de précis. Et au musée océanographique, il y avait deux squelettes, un squelette de morse et un squelette de ce qu'on appelle le léopard de mer ou le lion de mer. Donc c'est un animal des mers du Sud, quoi. Et les deux, quand je regardais les squelettes, mais c'était les deux mêmes squelettes apparemment, et l'arrière, on retrouvait eh bien séparés les membres. Or, le morse traîne son arrière, alors que l'otarie, les lions de mer, tous ces animaux-là, eux, déplacent leur patte arrière, leur nageoire, séparément, alors que le morse traîne son arrière. Et la morphologie est la même, la morphologie osseuse. C'est étonnant, l'étude des squelettes. Il a fallu que j'étudie le squelette du cachalot pour comprendre la forme du cachalot, qui est très particulière. Et effectivement, il a cette énorme masse frontale, alors que si on regardait que son crâne, bah, ça fait plus penser à un crâne d'oiseau, avec un bec très long. Effectivement, c'est il faut déshabiller l'animal pour comprendre comment il est fabriqué à l'intérieur. Voir d'abord le squelette, ensuite tous les muscles, puis ensuite les masses graisseuses et hautes, la fourrure, le poil, tout ça, et puis après synthétiser tout ça. Et il suffit de voir les mains pour voir comment est fabriqué le reste de l'individu. Et oui, parce que la main parle beaucoup. L'idée, c'est d'épurer, c'est-à-dire qu'on ne veut plus raconter une histoire, on ne veut plus avoir tout un tas d'éléments qui n'ont pas forcément quelque chose à voir ou qui amènent un côté violent. C'est le sujet tout seul qui fait la sculpture. Donc l'animal va se trouver tout seul. Donc l'idée, c'est d'amener quand même une certaine vie. Parce que c'est vrai que quand on voit deux animaux qui se bagarrent, c'est du vivant, c'est du violent. Et là, il s'agit pour moi d'amener du vivant, par l'esprit, donner une impression de vie chez l'animal et la forme que j'essaie de représenter. Donc, supprimer l'anecdote et aussi, au niveau de la forme, simplifier la forme, épurer, penser sculpture plutôt que penser à son thème qui était l'animal en train de faire passer à la forme pure, c'est-à-dire que tout le côté vivant, c'est dans une forme simple. Comment amener le vivant dans quelque chose d'ultra simple? La tête, je la ferai en dernier. Et ce que je fais vraiment en dernier, 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 ce sont les yeux. Quand j'arrive aux yeux, c'est comme si j'arrivais au dessert. La nature avait inventé la beauté, mais alors le cheval, lui, c'est du supplément. C'est pour moi, c'est le plus bel animal au niveau de la, pour un sculpteur, je dirais, pour un dessinateur, c'est l'animal le plus merveilleux au niveau de la forme, des proportions, tout ça. Pour moi, c'est très beau. Puis gamin, quand j'allais chez mes grands-parents qui étaient en retraite à la campagne, on entendait passer les chevaux sur la route quand ils revenaient avec des charrettes le soir. Et on courait à la barrière pour voir passer ces gros chevaux, parce que pour nous, oh, c'était merveilleux, un cheval. Pour un petit gamin de la ville, moi j'étais à Paris avant un petit gamin, donc pour un gamin de la ville, le cheval, c'était cette belle chose, cette merveille. Je crois que c'est le cheval qui m'a amené au dessin et à la sculpture animalière. Cet enthousiasme pour cette bête extraordinaire. La sculpture, je dis, ça transporte l'esprit. On a envie de toucher, on a envie de ça. Mais la musique, ça transporte l'âme. Pour moi, c'est le summum de l'art, la musique. C'est quelque chose de beau en musique, c'est impalpable en plus. C'est immatériel, complètement immatériel, et ça transporte l'individu. Ça peut le rendre agressif, ça peut le rendre calme, ça peut le rendre heureux. Quand je démarre un animal que je ne connais pas trop, j'ai besoin d'être très concentré. Et donc, même si j'ai de la musique, je ne me rends même pas compte que j'ai de la musique, je suis concentré sur mon travail. On a besoin, quelquefois, quand c'est très technique, d'être très concentré. Je me rappelle une fois, sur une pierre, j'avais tracé un ours, et puis je commençais à tailler dedans. Ça faisait une demi-heure, j'étais... Puis d'un seul coup... Dans cette pierre, pourquoi, j'en sais rien, mais je voyais un éléphant. Et finalement, j'ai libéré l'éléphant qui était dans la pierre. Et puis c'est pas un ours qui est sorti, c'est un éléphant. Instinctivement, il y a ce tic-tac. Alors cette pendule, elle était chez mes grands-parents. Elle était dans la chambre à coucher de la grand-mère. Et c'est là qu'on dormait, nous, le soir, quand on était petits. Donc elle remontait sa pendule, et on mettait ça, puis on s'endormait, on se réveillait avec ça. Et puis il y avait une pendule dans la cuisine, évidemment. Enfin, des grandes pendules comme ça. Après, j'ai collectionné, quand j'étais au Beaux-Arts, dans ma chambre, j'avais... 14 pendules, je crois, je sais plus. Et tout le monde marchait, tout le monde. Et j'aimais beaucoup ce mouvement de. Et c'est pas le temps qui m'intéressait, c'est le mouvement. Tac, tac, tac. Et donc, je me mets ça, ou de temps en temps, je mets de la musique, mais c'est très apaisant. Oui, c'est... il y a peut-être une psychanalyse à faire derrière, on ne sait rien, mais. Et c'est vrai que. Je pense que les gens qui ont des problèmes, qui sont très excités, tout ça, les attacher dans leur lit. Leur mettre le tic-tac, et puis les amener petit à petit à ralentir leurs excès. Par moments, j'ai besoin de silence. J'ai le tic-tac, et puis je regarde dehors, t'entends les oiseaux un peu, ou j'ouvre tout, j'ai le tic-tac, et puis j'ai le silence. Moi, je vois que les abeilles, là, elles sont rentrées de bonne heure, elles ont fait beaucoup de réserves de miel, parce que j'ai du ruche là derrière, et donc c'est signe d'un hiver qui pourrait être froid. Donc les insectes, la nature, elle prend le temps d'observer, elle sait. C'est pas un instinct, c'est une espèce de programmation. Regarder, se poser des questions, comment ça fonctionne, savoir s'émerveiller. La lenteur permet de s'émerveiller. Moi, je suis bien dans mon atelier. Finalement, comme un enfant qui est en train de jouer, il ne faut pas le déranger. Et c'est vrai que aller à des vernissages, aller à des choses comme ça, il faut le faire, mais c'est pas là où je suis le plus heureux. Je ne suis pas un mondain. Rester caché. Il y a ce roman qui dit que les oiseaux se cachent pour mourir. Je suis devenu un ours. je me cache pour vivre.
C'était Sculpter la douceur animale, second épisode, avec le sculpteur Michel Bassompierre. Réalisation Aurélien Frances, une production de Silence Podcast.